Bonsoir. Alors, après ces quelques mots du Père Lawrence, j'aurais simplement envie de dire une chose qui m'est venue en l'écoutant comme ça, c'est cette parole de l'apôtre Pierre sur le mont Tabor, au moment de la transfiguration du Christ, et quand il dit « Il est bon que nous soyons ici ». Et voilà, je crois qu'il est bon que nous soyons ici, et je dirais plus personnellement qu'il est bon que je sois là. C'est vraiment une très très grande joie de pouvoir passer ce week-end, cette conférence avec vous, et je remercie beaucoup le Père Lawrence, la communauté, Catherine, de m'avoir invité et de me donner l'occasion de ce partage, de ce temps de partage avec vous sur un certain nombre de réflexions qui m'importent. Ce que je vais vous dire n'est pas à prendre évidemment comme un programme ou comme la solution. Hein. Recevez ça plutôt comme un ensemble de propositions, de réflexions. Pour moi, c'est un travail en cours, hein, work in progress, qui continue. Donc, et j'espère aussi à travers nos rencontres et nos échanges, c'est toujours aussi pour moi l'occasion d'enrichir cette réflexion. D'enrichir cette réflexion et ce travail. Et donc, je vais surtout essayer de tracer une perspective en vous donnant un certain nombre d'éléments dont j'espère que vous pourrez justement ensuite chacun, chacune, faire un peu votre miel et dans le but d'essayer de tisser des liens entre ce qui nous réunit, c'est-à-dire la méditation chrétienne et l'écologie. C'est-à-dire à la fois en montrant j'aurais envie de dire la dimension cosmique et écologique, donc très actuelle, de la spiritualité, et de l'autre côté, en montrant à quel point la transformation intérieure, dont la méditation est un outil essentiel, eh bien, est importante comme fondement précisément pour un engagement écologique. Il y aura donc deux conférences. Ce soir, la première partie va plutôt être consacrée à un parcours, à une forme d'exercice de conscience par rapport à la crise écologique, en essayant d'aller aux racines spirituelles de cette crise, et à partir de là, de commencer un travail de métanoïa, c'est-à-dire de changement de regard sur la nature et sur la place et le rôle de l'être humain dans la nature. Et demain, qui sera la deuxième partie, sera plutôt consacrée à la transformation intérieure nécessaire et aux composantes de cette transformation intérieure pour pouvoir précisément incarner cette autre vision de la nature et de la place de l'être humain dans la nature, pour pouvoir l'incarner dans notre vie quotidienne, dans nos pratiques et dans tous les aspects de notre existence. Pour commencer, j'aurais envie de partager avec vous une petite découverte que j'ai faite récemment. Est-ce que quelqu'un de vous connaît Naoto Matsumura ? Alors, Naoto Matsumura, c'est un paysan, à peu près mon âge, un paysan japonais, qui a décidé de rester à Fukushima, après la catastrophe. C'est-à-dire que c'est, on le dit, le dernier habitant de Fukushima. Il n'a pas obéi à l'ordre de quitter la zone interdite, la zone d'évacuation de 20 km autour de la centrale nucléaire, donc qui a explosé suite au tsunami en mars 2011. Et il a choisi de rester là. Alors pourquoi est-ce qu'il a choisi de rester là, alors même qu'il sait que ce choix le condamne à plus ou moins long terme, plus ou moins court terme. D'ailleurs, lui-même le dit, je suis un homme césium. Pourquoi est-ce qu'il a choisi ça? Alors, il y a eu un reportage qui a été fait sur lui, magnifique reportage photographique avec quelques interviews. Et quand on lit ce qu'il raconte, on voit au fond qu'il y a trois raisons qui expliquent ce choix. Et je dirais des raisons qui tiennent à la fois de l'éthique, qui tiennent de l'écologie et qui tiennent de la spiritualité. Et donc, en fait, nous sommes tout à fait au cœur même de notre sujet. Alors, au niveau éthique, ce qui ressort de ces propos, c'est que, en fait, il dit, voilà, j'ai envie d'assumer ma responsabilité, car, étant né à Fukushima, par mon travail, par ma présence, j'ai accueilli à l'époque la construction de cette centrale, et j'ai, d'une certaine manière, contribué à l'établissement de cette centrale nucléaire. Donc, j'ai envie d'assumer ma responsabilité. La deuxième raison, de type écologique, c'est au fond un motif de solidarité. De solidarité, il dit, je ne veux pas abandonner ma terre, qui est en fait ma terre natale, qui est la terre de mes ancêtres, cette terre qui m'a nourri et qui abrite en fait les tombes de mes ancêtres. Et je veux rester là pour prendre soin de cette terre, pour prendre soin aussi de tous les animaux maintenant qui ont été laissés à l'abandon, les vaches, enfin il y a toute une série d'animaux. Donc je veux m'occuper de ça, je veux m'occuper des plantes, je veux m'occuper des tombes et je vais aussi commencer peu à peu à décontaminer le sol. Et la troisième raison, elle est d'ordre spirituel, parce que ce Naoto Matsumura est profondément ancré dans une grande tradition spirituelle du Japon, qui est le shintoïsme. Et au fond, il dit qu'il est là pour veiller sur le monde après l'apocalypse. C'est ces termes mêmes. Et donc, d'une certaine manière, pour commencer, par sa présence, à reconstruire le lien qui a été brisé entre l'être humain et la nature. Et voilà ce qu'il dit. Dans le Shinto, aucune espèce n'est supérieure à une autre. Toutes les choses, tous les êtres sont égaux, parce que la nature contient une dimension sacrée qui mérite notre déférence et notre respect. Nous devrions tous posséder l'intuition et comprendre que nous sommes d'une humble partie de ce délicat tissu de relations que l'on appelle la vie, et au grand jamais son exploiteur ni son destructeur. Je trouve que je voulais partager ça avec vous, parce que pour moi c'est au fond une forme de résumé à travers cette parole de paysan japonais de Fukushima, d'une certaine manière, de tout le entre guillemets, programme de l'éco-spiritualité. Et c'est vrai que certains disent de lui que c'est une forme de samouraï moderne, d'autres le comparent plutôt à un kamikaze, et moi j'aurais envie plutôt de dire que c'est une forme de veilleur d'humanité. Alors, en réfléchissant un peu sur ce cas, sur ce témoignage, cette extraordinaire figure, évidemment on se demande, et moi-même, qu'est-ce que je ferais à sa place, ça m'a rappelé un texte, un récit d'Alexandre Solzhenitsyn, pas très connu, qui s'appelle « La fille d'amour et l'innocent », et qui évidemment, comme beaucoup de textes de Solzhenitsyn, se passe dans un camp de concentration. Et à un moment donné, l'innocent, il y a un dialogue entre l'innocent et la fille d'amour, et à un moment donné, l'innocent dit à cette fille, il lui dit « Et si notre peau, parce que finalement, dans ce camp, notre principale préoccupation, c'est de sauver notre peau, hein, et si finalement notre peau n'était pas ce que nous avons de plus précieux ?» Alors la fille, elle est un petit peu étonnée de cette parole, elle lui dit « Oui, bon, ok, mais qu'est-ce qui pourrait être plus important que sauver notre peau, finalement, c'est-à-dire d'essayer de survivre ?» Alors là, il prend un moment de silence, et l'innocent lui répond « Peut-être quand même la conscience. » La conscience. C'est-à-dire que je pense qu'à ce moment-là, ce que nous dit Solzhenitsyn, c'est que le personnage prend tout à coup conscience que l'être humain est plus que simplement son instinct de conservation. Il est plus que simplement sa lutte pour une survie, sa survie biologique. Au fond, certes, nous n'avons qu'une vie, et cette vie est extrêmement précieuse, et cette vie, pour continuer, elle dépend de la planète, de la santé de la planète, qui est évidemment aussi extrêmement précieuse, mais nous avons aussi une conscience. Et cette conscience, c'est ce qui donne précisément son sens à cette vie, son sens à la sauvegarde de la création. Et qui est au-delà, au fond. C'est quelque chose qui nous amène au-delà, au fond, de la seule conservation matérielle, biologique, physique. Et c'est évidemment quelque chose qui implique une responsabilité. Donc j'aimerais continuer sur cette idée de conscience. Il y a une forme de conscience que j'aime beaucoup et qui est la lucidité. La lucidité, un grand poète résistant, René Char, magnifique poète, pour moi un des plus grands poètes français, et résistant, un vrai résistant, et je crois que nous sommes dans une époque de résistance, donc c'est pour ça que je pense que c'est une source d'inspiration importante, pour moi en tout cas. Et quand il parle de la lucidité, il la définit comme ça, il dit « La lucidité, c'est la blessure la plus rapprochée du soleil. » La blessure la plus rapprochée du soleil. Alors cette définition est très intéressante parce que en fait, on voit bien que être lucide, c'est beaucoup plus que être informé. Être lucide, et d'ailleurs le mot lucide, lucidité, vient du latin lucidus, luciditas, via lux, la lumière. Être lucide, c'est avoir la vision claire. C'est en fait donc une forme d'éveil. Et c'est justement pouvoir avoir une vision qui, en fait, n'est pas simplement éclairée par notre rationalité, mais qui est aussi éclairée par une autre lumière, cette lumière intérieure, la lumière de l'Esprit, la lumière de l'Esprit-Saint. Alors, pourquoi cet aspect de lucidité qui est au-delà que d'être informé est important? Parce que je pense qu'aujourd'hui, nous pouvons constater un véritable hiatus, vraiment un fossé très grand et très profond, entre d'un côté l'état de l'information. En fait, nous sommes informés, nous sommes même parfois surinformés des problèmes écologiques, des maux dont souffre la planète, et en même temps, on doit bien constater, aussi bien à titre individuel que collectif, le fossé qu'il peut y avoir entre cette information et la réalité de nos comportements individuels et plus encore des mesures politiques qui sont prises ou souvent pas prises, tant au plan national qu'au plan international. Un philosophe français, Jean-Pierre Dupuis, parle à cet égard de dire « Nous savons, mais nous n'arrivons pas à croire ou ne voulons pas croire à ce que nous savons. » Et évidemment, ce hiatus, ce fossé, il a plusieurs raisons. Alors, il y a des raisons d'ordre structurel, d'ordre politique, qui ont à voir avec, il ne faut pas les négliger, avec toutes les luttes et les jeux d'intérêts, des grands acteurs, des États, des multinationales, etc. Mais, pour revenir à une dimension plus spirituelle, je crois qu'il y a d'autres raisons, qui ont d'ailleurs été extrêmement bien élucidées par des courants de l'éco-psychologie, donc qui essaient de faire le lien entre écologie et psychologie dans le monde anglo-saxon. Et j'en retiendrai simplement deux, de ces raisons plus profondes. La première raison de ce hiatus, je pense que ça a à voir avec le fait que l'être humain est souvent divisé intérieurement. Il est divisé intérieurement entre, en fait, la tête et le cœur. Et l'information, c'est quelque chose qui nourrit la tête, enfin, qui fait fonctionner le moulin du mental. Mais très souvent, cette information, elle a de la peine à descendre. Elle a de la peine à descendre parce que, justement, nous sommes divisés. Elle a de la peine à descendre pour vraiment toucher le cœur. Toucher le cœur, donc, justement, devenir une blessure et rendre notre cœur brûlant, brûlant comme le soleil de René Char. Et vous savez, le courage, ça vient du cœur. Et c'est quand le cœur est touché et brûlé qu'évidemment nous pouvons aussi, du coup, avoir le courage pour faire des pas vers plus de cohérence par rapport à une réalité et à notre vie. Et la deuxième raison importante, pour reprendre une expression d'un biologiste catholique très engagé, Jean-Marie Pelt, c'est que l'être humain contemporain est un être dénaturé. Nous sommes très souvent des êtres qui sommes déconnectés, d'une certaine manière, de notre substrat naturel, de la terre, et c'est-à-dire que, d'une certaine manière, la nature ne fait pas véritablement partie de notre être. Nous ne la sentons pas et du coup, eh bien, nous n'arrivons pas à être véritablement touchés par les maux qui affectent cette nature. Donc, exercice de lucidité. Alors, ça, c'est vraiment le premier point. Alors, après, exercice de lucidité, par rapport à quoi? Alors, j'ai envie de dire par rapport à trois choses. Alors, vous verrez, c'est un, je ne sais pas pourquoi, mais c'est toujours comme ça, j'ai une espèce d'obsession trinitaire. Alors, c'est peut-être mon enracinement, enfin, et chrétien et orthodoxe, mais enfin, voilà, tout va toujours par trois, donc ne vous inquiétez pas, c'est le genre d'obsession un peu monomaniaque comme ça, mais je crois qu'on s'y fait très bien. Donc, trois raisons. Lucidité d'abord par rapport à la... Alors, je ne vais pas insister là-dessus, je pense que c'est évident, par rapport à la gravité et à l'urgence de la situation. Oui, la planète est en danger, et avec elle, plus encore, l'humanité et l'avenir des générations futures est en danger. Alors, je pense que c'est quand même important de le rappeler, parce qu'en particulier au niveau politique, il y a souvent, encore aujourd'hui, un énorme déni par rapport à la réalité des problèmes. Deuxième acte de lucidité, ou aspect de la lucidité, j'aurais envie de dire par rapport à au sens de la crise écologique. Tous les maux dont souffre la planète ne sont pas simplement des maux, des maladies qui sont ponctuelles. Ce sont véritablement des maux structurels. J'aurais envie de dire que ce sont des maux systémiques. La crise écologique est une crise systémique liée à toute une série d'interdépendances. Je ferai même un pas plus loin pour reprendre une des expressions de mon paysan de Fukushima. Elle est, je pense que la crise écologique, c'est une crise qui est apocalyptique. Alors elle est apocalyptique pas au sens un peu ordinaire ou courant du mot apocalypse, parce que très souvent quand on parle d'apocalypse, on imagine tout de suite la fin du monde, hein, c'est un petit peu la définition qu'on en donne. Donc je dirais qu'elle est apocalyptique au sens profond du mot apocalypsis, qui veut dire dévoilement, qui veut dire révélation. Alors cette crise, elle dévoile et elle révèle plusieurs choses, mais sur ce premier niveau, je dirais qu'en tout cas, elle révèle l'impasse d'un système économique. Alors, j'éviterai de le qualifier de capitaliste, parce que tout de suite, on part dans des grands débats sur toutes les formes de capitalisme, etc. Et c'est vrai qu'il faut être très nuancé, mais je suis arrivé à appeler ce système un système CPC, croissanciste, hein, obsession de la croissance, productiviste et consumériste, la consommation. Et donc on arrive vraiment, je pense que ça révèle l'impasse de ce système CPC, donc qui est d'ailleurs un mode de développement profondément inéquitable, et qui est justement fondé sur une croyance, mais une croyance illusoire, en une croissance illimitée, et qui se heurte, ce système, aujourd'hui, en fait, à la finitude de la planète. Et non seulement aux limites de la planète, mais je dirais aussi aux limites de l'être humain. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, la grande maladie de civilisation, c'est le burn-out, hein, la dépression d'épuisement. Donc il se heurte vraiment aujourd'hui aux limites de la planète et aux limites de l'être humain. Et oui, je pense, et c'est une véritable en fait, révolution mentale que d'accepter que nous sommes dans un monde fini, au niveau en tout cas matériel. Et par rapport à ça, j'aime bien citer cette parole du philosophe Jean Guiton. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu ou lisent encore Jean Guiton. C'est un philosophe catholique très important. Je pense qu'aujourd'hui, on ne le lit plus beaucoup, mais il a été dans les années, à partir des années 60, 70, 80, quand même quelqu'un qui a compté. Et du temps où j'étais journaliste, j'avais eu l'occasion de faire un grand entretien avec lui pour un hebdomadaire suisse. Et à un moment donné, il m'avait dit... L'humanité, alors il était un peu taylardien comme ça dans sa vision, il m'avait dit « L'humanité approche d'un point vertigineux où elle aura à faire un choix radical entre la catastrophe et la métastrophe, le suicide cosmique ou la mutation des consciences. » Et je crois que, donc, de certaine manière, il signifiait que l'être humain, que l'humanité arrivait à un carrefour. Alors, quand il me parlait, c'était au début des années 90, il disait « approche ». Je pense que plus de 20 ans plus tard, on est, à mon avis, en plein dedans. On n'est plus simplement en train d'approcher ce moment carrefour. Et donc, dans ce sens, la crise écologique, il ne faut pas l'entendre, justement, dans une vision restrictive de la crise, qui est, voilà, il y a une crise. Alors une crise, généralement, c'est quelque chose à traverser pour ensuite retrouver un état d'avant la crise. Je pense qu'en réalité, la crise en question et toutes les crises qui l'accompagnent, la crise économique, la crise financière, la crise sociale, sont toutes les manifestations, en réalité, d'une mutation en cours. D'une mutation en cours liée à un moment carrefour. Et je crois que dans ce sens, il faut vraiment entendre le mot crise au sens profond du mot crisis, avec l'origine grecque, qui est ce moment du choix, ce moment du discernement, ce moment du jugement, et qui évidemment nous rappelle ce très important verset du Deutéronome, quand Dieu dit « Vois, je te propose aujourd'hui vie et bonheur, mort et malheur, choisis la vie, afin que toi et ta postérité, évidemment en termes modernes, des générations futures, vous viviez. » Je crois qu'on est vraiment dans ce moment-là. C'est un moment extrêmement fort et extrêmement important. Donc, lucidité, conscience par rapport à la gravité de l'enjeu, la crise, par rapport au sens de la crise, et j'aurais envie de dire maintenant par rapport à la nature de la crise écologique. Parce que je crois que si on veut répondre en profondeur aux racines de la crise écologique, eh bien, il faut aller à ses racines. C'est-à-dire on ne peut pas simplement rester sur le plan de ses causes plus ou moins symptomatiques, réchauffement climatique, épuisement des ressources, etc. Je pense qu'il faut aller plus profond. Et ces causes, elles sont civilisationnelles, elles sont psychologiques, elles sont culturelles, j'ai envie de dire, elles sont en réalité profondément spirituelles. Et elles ont à voir avec le paradigme. Alors pour simplifier, on pourrait dire que le paradigme, c'est un système de représentation lié à un mode de connaissance, pour être très, très, très bref. Mais elles sont liées au paradigme qui est au fondement même de la civilisation occidentale et qui, en fait, détermine toutes nos relations qui détermine toutes les relations entre l'être humain et la nature. Et ce paradigme, en réalité, c'est une représentation qui est héritée de la modernité occidentale, c'est-à-dire, il se cristallise, bien sûr, il a des antécédents, mais il se cristallise, grosso modo, à partir de la fin du Moyen-Âge, à partir de la fin du XVe siècle, il va ensuite conduire aux Lumières, à la Révolution industrielle, etc. Eh bien, ce paradigme, en fait, c'est une représentation de la nature et de l'être humain que j'aurais envie de dire. C'est une représentation qui est matérialiste, qui est dualiste, désacralisée et utilitariste. Et ce système, en fait, ça veut dire que, et là je souligne le mot désacralisé, hein, parce que ça renvoie aussi à nos paysans de Fukushima quand ils parlent de la dimension sacrée de la nature. Et là, un grand théologien orthodoxe, Jean de Pergam, Jean Zizulas, qui est un des théologiens qui a réfléchi dans la tradition orthodoxe sur les questions écologiques, dit la crise écologique, en réalité, c'est une crise du sacré. C'est une crise du sacré, c'est en fait la crise d'une culture qui a perdu le sens du sacré parce qu'elle a perdu sa relation au divin, à cette dimension qui nous dépasse. Et donc, je pense que cette crise, elle pose d'une manière fondamentale la question du sacré et de la place du sacré dans notre vie, dans notre existence. Et ça veut dire que cette crise écologique, elle n'est pas simplement au-dehors de nous, mais elle est bien à l'intérieur de nous aussi. Et elle est à l'intérieur de nous du fait, j'y reviendrai, du fait de notre unité ontologique, c'est-à-dire vraiment dans notre être même avec la nature. Et là, on peut véritablement, en faisant une lecture spirituelle, montrer que toute une série des déséquilibres écologiques des écosystèmes sont la manifestation, l'expression, la conséquence d'un certain nombre de déséquilibres intérieurs. Et puis, d'un autre côté, pour revenir à ce système CPC, ce système économique croissanciste, productiviste, consumériste, eh bien ce système n'est pas simplement extérieur à nous, mais il vit aussi à l'intérieur de nous. C'est pour ça qu'il est si difficile à transformer. Et j'y reviendrai demain, justement, en réfléchissant sur la transformation intérieure. Eh bien, en réalité, il vit à l'intérieur de nous par une manière d'instrumentaliser et de capter nos ressorts les plus intimes que sont la peur et la puissance de désir. Ça, j'y reviendrai demain. Donc, la crise écologique, elle est à l'intérieur de nous. Et par rapport à tout ça, à ce premier moment d'exercice de lucidité, eh bien, je crois que c'est à la lumière, précisément, de ces racines et de cette conscience qu'il convient d'évaluer les réponses qui sont données à la crise écologique. Alors, c'est vrai qu'il y a toute une série de mesures qui sont à prendre et qui sont déjà prises en partie, évidemment, de manière insuffisante. Il est évident qu'il faut des conférences internationales, comme celle de l'ONU, pour définir un certain nombre de standards environnementaux, pour lutter contre les changements climatiques, etc. Bien évidemment qu'il faut aussi des actions au niveau national, comme par exemple une loi sur le CO2, enfin, il y a toute une série d'autres mesures. Certainement aussi qu'il est important que les entreprises adoptent des chartes écologiques, mais surtout les mettent en œuvre. Important aussi qu'on continue à développer les technologies vertes, les énergies renouvelables, toutes les mesures justement d'économie d'énergie, et puis évidemment de continuer à travailler tous les éco-gestes au quotidien. Tout ça, c'est extrêmement important. Mais tout ça, pour moi, constitue ce que j'appellerais une forme d'écologie extérieure, qui en réalité, pour prendre tout son sens, doit être complétée par une écologie intérieure, par une éco-spiritualité, pour justement donner naissance à une écologie intégrale et non intégriste, une écologie intégrale justement qui permet d'embrasser tous les niveaux de l'être et tous les plans de réalité. Donc il faut aller plus loin que l'écologie extérieure, parce que l'écologie extérieure, ça ne permet pas véritablement d'aller jusqu'au plan des racines que j'ai mentionné. On reste sur un plan d'horizontalité. C'est une écologie sans verticalité. On reste sur le plan du faire, beaucoup plus que sur le plan de l'être. Et vous savez, Einstein disait, il y a des problèmes qu'on ne peut pas résoudre sur le plan de conscience où ils ont été créés. Quand on parle d'écologie, d'éco-spiritualité, c'est bien de dire, oui, il y a un changement de plan de conscience qui est à effectuer, parce que d'une certaine manière, une grande partie de l'écologie extérieure, finalement, c'est l'ego qui est aux commandes, et c'est l'ego qui cherche une issue à, en fait, des problèmes, à une situation qui est en réalité le fruit de son hypertrophie. Et donc, on doit véritablement changer de niveau de conscience, et même, si vous voulez, par rapport à ça, je pense que le plan de l'éthique, qui est souvent d'ailleurs dans la tradition chrétienne, en particulier occidentale, le plan sur lequel l'Église va donner des réponses à la question écologique, c'est souvent sur un plan éthique, à mon avis beaucoup plus que spirituel. Même le plan de l'éthique, qui est évidemment aussi très important, Dieu sait si c'est important de définir des critères sur comment faire pour écologiquement bien faire, hein, c'est évidemment très important, mais là aussi, à mon avis, ce plan-là ne suffit pas. Parce que, si vous voulez, l'éthique, eh bien bon, ça nous aide à, au fond, réguler les relations entre l'être humain et la nature à travers toute une série de critères, mais ça ne permet pas forcément de sortir du dualisme, je vais revenir là-dessus, du dualisme entre l'être humain et la nature. Ça nous amène parfois à poser un idéal qui reste quand même qui reste extérieur et qui peut être simplement aboutir sans du tout changer le statut de la nature, qui peut rester un objet, mais qui aboutit le plus souvent, au fond, à un utilitarisme modéré par rapport à un utilitarisme abusif, c'est-à-dire un usage modéré, équilibré de la nature par rapport à ce qui est aujourd'hui un usage excessif et abusif. Donc, aller plus loin, aller plus profond, et d'où cette expression de éco-spiritualité, une forme de néologisme c'était important de pas simplement dire écologie et spiritualité, mais véritablement de montrer, parce que c'est comme ça que je la vis et que je la vois, cette unité profonde entre l'écologie et la spiritualité. Pour moi, ce n'est pas simplement, au fond, d'ajouter une couche spirituelle à un engagement écologique ou d'ajouter une couche d'engagement citoyen écologique à une démarche spirituelle, mais c'est véritablement de comprendre qu'il n'y a pas de spiritualité profonde authentique sans une prise en compte de la nature et de ses problèmes, et inversement. Et pourquoi ? Eh bien parce que fondamentalement, le divin, l'humain et le cosmique sont un. C'est une unité fondamentale. Nous sommes dans une unité de communauté, communauté de vie, communauté d'être et communauté de destin. C'est vraiment très important. Et évidemment, le lieu de cette unité, eh bien, le lieu où cette unité peut véritablement se vivre, eh bien, c'est le cœur. C'est pas la raison et pas le mental, c'est le cœur. Et le moteur de cette unité, c'est l'amour. Et c'est pour ça que je parle, au fond, d'une relecture du deuxième commandement évangélique. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu aimeras la terre comme toi-même. Et dans l'interprétation la plus profonde des pères de l'Église, le « comme toi-même » ne veut pas dire « tu aimeras ton prochain autant que tu t'aimes toi-même ». C'est souvent compris comme ça, sur un plan un peu quantitatif, ce qui est d'ailleurs extrêmement problématique vu le nombre de gens qui ont un peu de la peine à s'aimer. Mais c'est véritablement tu aimeras la terre ou tu aimeras ton prochain et du coup la terre comme faisant partie de toi-même. Et ça, je pense que c'est extrêmement important. Alors, quel contenu donner à cette éco-spiritualité ? Alors, je mettrai l'accent sur deux points. D'une part, et qui a à voir avec déjà un début de travail de métanoïa, de changement de l'esprit, de changement de regard. Changer notre regard sur la nature et changer notre regard sur l'être humain et sur la place de l'être humain dans la nature. Changer notre regard sur la nature. Il y a une histoire que j'aime bien dans les métamorphoses d'Ovid. C'est un très court passage, mais extrêmement significatif. Et c'est un personnage qui s'appelle Érysichthon et qui se promène avec ses hommes, une petite équipe d'hommes, dans la forêt. Et à un moment donné, il voit un chêne absolument majestueux, extraordinaire, une pièce vraiment formidable. Et immédiatement, les hommes qui l'accompagnent sont comme saisis, c'est-à-dire qu'ils sentent, ça y est, ils sentent que là, ils sont en train d'entrer dans un périmètre du bois sacré, hein, qui a une autre dimension. Et donc, ils prennent très vite une attitude comme ça d'humilité, de révérence, mêlée un petit peu de crainte. Mais Érysichthon, lui, il voit surtout l'arbre en se disant le profit qu'il pourrait en tirer. Il se dit là, minimum, je ne sais plus combien de stères de bois je vais pouvoir tirer de ça. Donc, il exige au chef de l'escouade qui l'accompagne d'abattre l'arbre. Il refuse, il demande aux autres hommes, il refuse. Du coup, il se fâche, il prend la hache, il coupe la tête du chef de l'équipe et il abat l'arbre lui-même. Donc, il se fait que cet arbre sacré, il est dédié, consacré à la déesse Cérès, qui est la déesse dans la tradition latine, de la fécondité. Et quand Cérès apprend ça, elle est furieuse. Alors, elle va jeter un sort. Elle va frapper en fait Érysichthon d'une malédiction. Et sa malédiction, ce sera que tout ce qu'il mangera ne fera qu'accroître sa faim. Donc Érysichthon, il mange, mais il a toujours faim, donc du coup, il commence à consommer ses biens, il a toujours faim, donc il mange ses enfants, et puis finalement, par désespoir de cause, il se mange lui-même. Bon, c'est la mythologie, hein. Et je trouve que cette histoire est extraordinaire parce que, pour moi, c'est véritablement symbolique de ce système CPC dont j'ai parlé, qui est en vérité un système où, à travers lequel l'être humain, fondé sur une consommation sans fin et démesurée, mais l'être humain, finalement, finit par consumer la base même de son existence. Alors, cette question, je trouve, aussi avec les deux attitudes, hein, celle d'Érysichthon et de ses hommes, elle pose bien la question, mais au fond, c'est quoi la nature ? Est-ce que la nature, c'est simplement une réalité matérielle ? Ou bien, est-ce que la nature, ce ne serait pas aussi quelque chose d'autre ? c'est-à-dire une réalité qui serait douée d'une autre dimension, d'une dimension sacrée, d'une dimension de mystère. Il faut bien voir que tout le système économique et social dans lequel nous vivons est évidemment fondé sur cette première vision matérialiste de la nature. Et cette vision, j'y reviens, elle remonte justement à cette modernité occidentale à partir de la fin du XVe siècle. Et alors là, pour aller effectivement extrêmement vite, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Eh bien, je dirais que, pour simplifier, on a peu à peu expulsé Dieu dans la transcendance. On a expulsé Dieu hors de la matière, hors de la nature, dans une transcendance plus ou moins inaccessible, c'est-à-dire que Dieu est devenu extérieur. Il est devenu extérieur à l'être humain, il est devenu extérieur à la nature, et puis il est aussi devenu un peu à peu une abstraction, du coup. Hein, plus forcément comme ça une présence. C'est pour ça que je dis parfois qu'au fond, la crise écologique, c'est une tragédie théologique, hein, d'une certaine manière, à l'origine. Et à partir de là, eh bien, on se retrouve avec une nature vidée, littéralement vidée, de toute dimension de mystère, de toute dimension d'intériorité, et donc une nature qui va être matérielle, chosifiée, une nature mécanisée, et qui va devenir ce qu'elle est devenue, c'est-à-dire un stock de ressources, un paquet de gènes, un capital, hein, à la disposition de l'être humain, pour la satisfaction, alors si seulement c'était uniquement de ses besoins, mais en réalité de son avidité infinie. Et donc je crois que par rapport à ça, dans ce travail de métanoïa, eh bien la première chose, la première tâche, ça va être précisément de sortir de cette vision réductrice et réductionniste de la nature, en lui redonnant une dimension justement de mystère, une dimension sacrée. Alors, et ça j'ai pu l'observer en faisant aussi des débats, parfois avec des évêques, notamment les évêques catholiques. C'est vrai que dès que vous commencez à parler de dimension sacrée de la nature, j'ai les oreilles qui se lèvent, et puis je sens que ça commence à frémir, comme ça, ça se crispe un peu, quoi. Et c'est vrai que là, il y a quelque chose qui fait un peu peur, hein, et en particulier dans le monde chrétien. Parce que tout de suite, évidemment, on voit et on dresse le spectre du retour au paganisme, hein, le retour au paganisme, le culte de la nature. Finalement, tout ce contre quoi l'Église, pendant des siècles, a lutté, d'une manière d'ailleurs parfois très, très violente. Alors, le but, quand je parle d'une forme de resacralisation de la nature, c'est évidemment pas de recréer une religion de la nature, hein, de faire un culte de la nature qui amènerait en fait à idolâtrer la nature ou à faire de la nature une idole. C'est plutôt d'essayer d'esquisser une troisième voie entre deux pôles, le pôle matérialiste dont j'ai parlé, et puis d'autre part le pôle du panthéisme. Et cette troisième voie, je l'appellerai le pananthéisme. Alors pananthéisme, excusez-moi pour ce mot un peu barbare, en fait, si on le décompose, on a pan, en, theis. Ça veut dire pan, tout, en, en, theos, Dieu. Le pananthéisme, c'est tout en Dieu et Dieu en tout. Alors, c'est différent du panthéisme. Le panthéisme dira, en regardant cet arbre, il dira « cet arbre est Dieu ». C'est-à-dire, au fond, il y aura une forme d'identification des éléments de la nature avec le divin. Le pananthéisme dira « non, cet arbre n'est pas Dieu, parce que s'il était Dieu, il serait incorruptible, éternel, etc. » Mais Dieu est dans cet arbre. Et c'est précisément pour ça que Dieu, que cela donne une dimension sacrée. Et une partie de mon travail, ces deux dernières années, ça a été justement, au niveau théologique, de faire une revisitation critique de la tradition chrétienne pour justement fonder théologiquement cette présence de Dieu dans la nature. Et là, je dois dire que la tradition, alors c'est pas du tout plaidoyer pro domo, parce que, rassurez-vous, l'Église orthodoxe en tant qu'institution est aussi malade que les autres églises, mais simplement, il se fait que je pense que cette tradition orthodoxe à laquelle j'appartiens, qui est en fait la tradition orientale, mais en réalité, c'est la tradition orthodoxe, c'est la tradition des pères de l'Église, et les pères de l'Église sont restés une référence vivante et importante de la tradition orthodoxe, mais en réalité, ils appartiennent à toutes les églises, hein, aussi bien aux catholiques qu'aux protestants, parce que ça fait partie de cette période qu'on a appelée l'Église indivise, avant les grands schismes, etc. Donc, chez les pères de l'Église, on trouve toute une série d'intuitions qui permettent de fonder cette vision panenthéiste de la nature. Alors, j'aimerais simplement vous donner deux, trois éléments par rapport à ça, parce que je pense que c'est important, en tant que chrétien, de pouvoir aussi, et vous verrez, c'est quelque chose qui n'est pas simplement de la théologie spéculative. Ça a vraiment une dimension très, très tangible et très palpable. Alors, c'est vrai que si on lit, par exemple, Irénée de Lyon, au IIe siècle, Irénée de Lyon, quand il parle de la... Alors lui, il parle d'une présence trinitaire, présence de la Trinité dans le cosmos, dans la nature, et il parle justement du Père, qui est la source, hein, qui agit avec ses deux mains. Ces deux mains que sont le Fils et l'Esprit, le Logos et l'Esprit Saint. Et avec chacun ayant une forme, une fonction, si vous voulez, le Logos, eh bien, il structure. Le Logos, il informe. Il informe la nature, il informe le cosmos par sa sagesse, Logos, hein, par une forme de raison, qui n'est pas la rationalité telle qu'on l'entend, mais. Par ce qu'on appelle les logoi, ça je vais y revenir, alors que l'esprit, eh bien l'esprit, elle, c'est l'Esprit Saint, c'est une force de vie. Et lui, si le logos structure et informe, l'Esprit Saint, il anime, il vivifie, il accomplit. Et là, par rapport à ça, par rapport au logos, je pense qu'il est extrêmement important de retrouver la dimension cosmique de Jésus-Christ, une christologie cosmique. C'est extrêmement important de retrouver ça. Ça a été extrêmement présent, j'aurais envie de dire, jusqu'à la fin du 7e siècle. Ça l'est resté, mais d'une manière un peu minoritaire. On retrouve ça notamment chez François d'Assise, etc. Je pense que c'est extrêmement de retrouver cette dimension cosmique, parce que, et ça c'est très clair, par exemple, chez Irénée de Lyon, quand il parle du Christ qui est en fait, qui récapitule toute la création, c'est-à-dire que le Verbe, le Logos, quand il s'incarne, certes, il s'incarne dans un être humain, Jésus-Christ. Certes, il se fait chair humaine. Mais les pères disent, il se fait chair cosmique. C'est-à-dire que dans son incarnation, en réalité, il va récapituler et porter en lui toute la création. Et on pourrait faire toute une relecture, en fait, de tout ce qu'on appelle l'économie du Christ, depuis son baptême jusqu'à sa crucifixion, hein, qui d'ailleurs provoque des phénomènes cosmiques très importants, les tremblements de terre, en passant par la transfiguration, etc., pour justement mettre en évidence cette dimension cosmique du Christ. Donc je pense que dans notre foi par rapport au Christ, c'est important de réintégrer cette dimension-là. Alors par rapport au Logos, et là je me fonderai sur la théologie en particulier de Saint Maxime le Confesseur, théologien byzantin du 7e siècle, il parle des Logoi, qui vient de Logos. Et en fait, on peut le traduire en français par les idées volontés de Dieu. Et au fond, pour le dire très simplement, finalement, chaque créature porte en elle une empreinte du Logos. Une empreinte du Logos qui va la définir dans sa raison d'être profonde. Elle va la définir dans son principe, parce que sans cette source, eh bien, elle ne serait pas. Mais elle va la définir aussi dans son identité, dans ce qu'elle est, dans son identité de feuille, d'arbre, aussi bien au niveau de l'espèce d'ailleurs que de parce que chaque feuille est différente, chaque arbre est différent. Elle va la définir aussi au niveau de son ordre, parce que il y a un ordre dans le cosmos. Hein. Et les pères parlent d'une symphonie, une espèce de grande symphonie où chaque chose est à sa place, et puis aussi dans sa finalité. Et finalité, vous savez, Dieu, quand il crée le monde dans la Genèse, il y a toujours cette parole à la fin de chaque jour, et Dieu dit que cela était bon. Hein. En grec, c'est kalo, beau, ça veut dire bon et beau. Hein. Alors, bon, ça veut pas dire, ça veut dire bon selon son dessein. C'est-à-dire que ça correspond à son dessein, à ce qu'il voulait. Mais ça ne veut pas dire que c'est achevé. C'est encore à accomplir. Et justement, cette finalité, elle est encore à accomplir. La création, elle a été, on dit, il y a la création prima, et puis il y a la création qui continue. Dieu continue de créer le monde, de l'intérieur du monde. Et l'être humain a participé à être co-créateur, et a justement participé à ce que la nature, tous les éléments de la nature, réalisent leur finalité. Cette finalité, c'est la transfiguration. Dans la tradition des pères, le salut, c'est la transfiguration, c'est être divinisé, c'est-à-dire c'est s'unir au divin. Et cette transfiguration, elle ne concerne pas que l'être humain, elle concerne toute la création. Ça, c'est pour la partie des énergies, du Logoi. Et puis, pour la partie de l'Esprit Saint, même si en réalité elles sont trinitaires, il y a toute une théologie qui a été développée au XIVe siècle par Grégoire Palamas, et qui est la théologie des énergies divines ou des énergies incréées. Malheureusement, cette théologie n'a pas été reçue et acceptée par la tradition occidentale, alors qu'elle fait complètement partie intégrante du corpus dogmatique de l'Église d'Orient. Alors, pour comprendre cette théologie des énergies incréées ou des énergies divines, là aussi, parfois les chrétiens, ils ont un peu de la peine avec tout ce qui est énergétique. Pour comprendre cette théologie-là, Grégoire Palamas, il prend l'image du soleil et des rayons du soleil. Il dit voilà, Dieu dans son être, Dieu trinitaire dans son être, c'est le soleil. Et le soleil, eh bien, on ne peut pas le regarder parce qu'il nous aveugle. On ne peut pas regarder le soleil en plein midi, il nous aveugle. Et ça, c'est toute la théologie, justement, en fait, qu'on dit négative ou apophatique, c'est-à-dire qu'en réalité, tout ce qu'on peut dire de Dieu et de l'être de Dieu n'est qu'une approximation, parce que c'est totalement au-delà de tout ce qu'on peut en dire. Mais en même temps, ce soleil, il rayonne. Et ces rayons, ils sont de la même nature que le soleil. Ils sont de nature divine. Et ces rayons, précisément, c'est les énergies divines. Et là, on a une vision du cosmos, une vision de la création qui est en fait resplendissante, qui est habitée par ces énergies divines. Il n'y a pas que des énergies divines, des énergies créées, il y a parfois des énergies démoniaques, il y a un petit peu de tout. Donc il faut aussi du discernement. Mais en même temps, cette création, elle est animée par ces énergies divines. Et nous-mêmes, nous sommes animés par ces énergies divines. La grâce n'est pas quelque chose d'extérieur dans cette vision-là, qu'on doit recevoir de l'extérieur, une forme de grâce qui va être donnée selon nos mérites, etc. Non, la grâce, elle est en permanence à l'intérieur de nous. Et notre travail, précisément spirituel, c'est de lui permettre de se manifester par un travail justement de kénose, de vide, qui permet l'ego rétrécissant à cette énergie, à ces énergies, de se manifester, d'où les visions enfin, de ces saints qui sont des êtres de lumière. Et précisément, ces énergies divines, elles ont différentes fonctions. Une des fonctions, ça va être justement une fonction de révélation du divin. Toutes les manifestations dans la Bible, où Dieu se révèle comme lumière, etc., c'est à travers les énergies divines. Mais ça va aussi être, les énergies divines sont aussi puissance créatrice, puissance de vie. Et puis finalement, les énergies divines, elles sont puissance de sanctification. C'est précisément ce qui permet à toutes les créatures, et en particulier à l'être humain, d'accomplir cette finalité qui est inscrite en nous, qui est inscrite dans chaque créature, justement, par le Logos et les Logoi. Voilà d'une manière extrêmement, si vous voulez simplifier, quelques éléments pour un petit peu sentir ou rendre plus palpable cette présence du divin dans la nature. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que la création, la nature, eh bien, c'est beaucoup plus en réalité que simplement une réalité matérielle qui obéirait à des lois biologiques, à des lois physiques, etc. C'est un mystère. Alors, la nature n'est pas divine par essence, mais elle participe à la vie divine par les énergies. Et donc, vous savez, écologie, c'est oikos, c'est le discours sur la maison. Et c'est vrai que très souvent, on parle de la maison de l'homme. Mais en réalité, dans cette vision-là, la création, c'est aussi la maison de Dieu, l'oikos de Dieu. Et c'est pour cela, précisément, que cette création, eh bien, elle a une dimension sacrée et qui, justement, appelle au plus grand respect et qui fait que cette création, elle est justement théophanie, c'est-à-dire manifestation, révélation de la beauté, de la bonté, de la générosité divine, qu'elle peut être, et ça on le voit dans l'Évangile et chez les Pères aussi, un exemple pour une vie simple et vertueuse, quand le Christ dit de s'inspirer des lys des champs, hein, pour une vie de simplicité, et qu'elle est aussi un lieu de connaissance du divin. Maxime le Confesseur parle d'une triple incorporation du Verbe. Hein. Il se fait chair d'une triple manière. Il se fait chair dans l'être humain, effectivement, dans l'incarnation à travers la mère de Dieu, à travers Marie. Il se fait chair dans les Écritures, et il s'incorpore dans les Écritures, et il est aussi incorporé dans la nature. Et évidemment, cette triple incorporation, eh bien, implique un travail d'interprétation. Et je viendrai demain sur la dimension de connaissance. Changer notre regard sur la nature, mais aussi changer notre regard sur l'être humain. Alors là, si vous voulez, je crois que très souvent, le débat écologique, il est un petit peu pris, enfermé entre deux pôles. Un pôle que je dirais anthropocentriste et un pôle cosmocentriste. Alors le pôle anthropocentriste, humaniste, eh bien c'est cette vision de l'être humain comme gestionnaire de la nature. Voilà, l'être humain est le gestionnaire de la nature, mais d'une nature quand même qui reste assez objet et qui évidemment, dans cette vision-là, au fond, on est dans une vision qui est assez dualiste, qui peut conduire à une séparation de l'être humain et de la nature et qui peut conduire, c'est le danger, à une forme d'autodéification de l'homme, qui va se mettre un petit peu comme dit Descartes, le maître et possesseur de la nature. Et puis de l'autre côté, vous avez une vision cosmocentriste qui a été développée en particulier par certains courants de l'écologie profonde, la deep ecology, et qui considère l'être humain finalement comme un être, une créature pas plus importante qu'une araignée, qu'une plante, qu'un insecte, etc. Et d'ailleurs, allant jusqu'à dire que finalement, d'ailleurs, c'est un élément plutôt perturbateur, et puis ça ferait pas tellement de mal à la nature s'il finissait par disparaître. Et c'est vrai d'ailleurs que quand on parle des problèmes écologiques, l'être humain est beaucoup plus menacé que la nature, qui aura certainement, jusqu'à ce que le soleil s'éteigne, les capacités de survivre. Alors là, je pense que de nouveau, c'est important pour moi de tracer, je crois que c'est le père Lawrence, parlant une fois de la méditation, parle d'une espèce de voie moyenne, hein, de tracer de nouveau une voie, une troisième voie entre ces deux pôles. Et pour faire référence à un auteur que j'aime beaucoup, qui est Raymond Panikkar, j'aurais envie de dire, c'est une vision cosmo-théanthropique, cosmos, théos, anthropos, justement, qui recrée cette unité, cet équilibre entre le divin, l'humain et le cosmique. Et par rapport à ça, eh bien, il y a, je dirais, trois visions de l'homme qui me paraissent très importantes. Bon, là, je vais aller un petit peu plus vite parce que le temps passe. Une vision de l'être humain comme microcosme, vision de l'être humain comme microtheos, et une vision de l'être humain comme médiateur. Alors, très rapidement. La vision de l'être humain comme microcosme, eh bien, qui est une notion qui était très présente dans, aussi bien d'ailleurs dans la tradition grecque que chez les pères de l'Église, c'est l'idée, d'une part, c'est ce que le père Lawrence a mentionné tout à l'heure, de justement cette conscience que l'être humain fait partie d'un tout, hein, c'est l'être humain comme partie intégrante du cosmos et de la nature, mais c'est aussi, dans la vision des pères de l'Église, l'être humain comme intégrant en lui-même tout le cosmos. En fait, c'est un micro-macrocosme, d'une certaine manière. C'est-à-dire que nous portons en nous toute la création, toute son évolution, toute l'histoire de l'évolution et tous les règnes, règne minéral, règne végétal, règne animal. Et je crois que c'est très important de retrouver ça et d'une certaine manière donc de nous renaturer. Jean-Marie Pell parle de se renaturer, c'est-à-dire de retrouver ce lien profond et ontologique avec la nature. Et vous savez, dans humain, il y a humus. Hein, dans humain, il y a humus. Ça veut dire que nous sommes poussière de terre, nous sommes poussière d'étoiles aussi. La terre, elle est notre origine, elle est aussi notre destin, elle n'est pas simplement un contexte où, comme le disent certains théologiens, simplement le théâtre de l'histoire du salut humain. Elle est véritablement partie intégrante de notre être, et on pourrait là refaire toute une lecture de la Genèse pour montrer ça. C'est-à-dire que dans la Genèse, on voit bien que, certes, l'être humain est créé en dernier, comme une espèce de récapitulation et de couronnement de tout l'acte de création, mais il est créé à partir de la glaise. Nous sommes faits de terre. Hein. Adam, c'est la Adama, c'est la terre, c'est la poussière. Et puis nous sommes créés le même jour que les animaux. Donc là, je crois que c'est très important de prendre conscience de cette, en fait, fraternité. Nous sommes véritablement dans une communauté, pour reprendre l'expression, créaturelle, une forme de fraternité. Et là, c'est tout le magnifique texte de François d'Assise sur, justement, la sœur lune, le frère soleil, etc. Nous sommes véritablement dans une fraternité. Nous sommes dans une fraternité, non seulement parce que nous sommes les enfants du même père, créateur, mais aussi parce que nous sommes les enfants, et ça a été oublié, perdu dans la tradition occidentale, nous sommes aussi les enfants de la terre-mère. Il y a, on trouve des textes dans la tradition chrétienne qui reprennent cette grande vision de la Pachamama de l'Amérique latine, de la terre-mère. Je parle en particulier à un Éphrem le Syrien du IVe siècle qui parle de la terre-mère. Nous sommes aussi dans une fraternité parce que nous sommes enfants de la même terre. Donc ça, je pense que c'est, si vous voulez, c'est un premier élément de réponse à justement ce réductionnisme de la modernité où on a justement eu cet anthropocentrisme, c'est-à-dire où on a mis l'être humain non seulement au centre de tout, c'est l'anthropocentrisme, mais on l'a aussi mis en dehors de la nature et au-dessus de la nature. Et là, je crois qu'il faut, et c'est le nouveau humus, humain, humilité, faire cet acte d'humilité où on se resitue par rapport à ce tout. Et le deuxième aspect de l'être humain, c'est l'être humain comme microtheos. Alors, et c'est là, si vous voulez, où on peut se démarquer du cosmocentrisme, c'est-à-dire que l'être humain, certes, fait partie du tout, mais en même temps, l'être humain, eh bien, il a une place particulière, un rôle particulier dans la création. Et on le voit bien, pour reprendre le texte de la Genèse, il est créé différemment. Voilà, certes, Dieu le crée à partir de la glaise, mais il lui insuffle une haleine de vie. Il le crée à son image et à sa ressemblance, hein, l'image étant un potentiel qui contient tout le programme spirituel à accomplir pour arriver à la ressemblance. Et puis, il le crée corps, âme, esprit. Et là, c'est extrêmement important aussi par rapport à, et c'est pour ça que je pense que la crise écologique est aussi une crise anthropologique, de retrouver cette plénitude anthropologique de l'être humain. Ce sera très important par rapport à ce que je vais amener demain. C'est-à-dire que, à ce moment de la modernité et du dualisme, on a eu une forme de réduction de l'être humain qui était ternaire, corps, âme, esprit, hein, soma, psyché, et les pères grecs parlent du nous, à en fait un simple composé psychosomatique. Et ce qu'on a perdu en cours de route, dans la conception de l'être humain, c'est la dimension du nous, qu'on pourrait appeler l'intellect spirituel, qui est cette faculté que l'être humain a, qui, comme dit saint Augustin, le rend capable de Dieu. C'est-à-dire une faculté que nous avons en nous qui nous rend justement capable de voir au-delà des apparences, de voir derrière le voile, de percevoir le divin, d'entrer dans le mystère, de comprendre justement les logoi, les raisons d'être profondes des choses. C'est cette faculté-là qui est, et là la méditation joue un rôle évidemment très important, qui est à éveiller et à cultiver. Et donc, microcosmos, microtheos, c'est la troisième notion, l'être humain comme médiateur, comme être frontière. Et ça, c'est toute une théologie qui a notamment été développée au IVe siècle par Grégoire de Nazianze, dit Grégoire le théologien aussi, qui parle justement de l'être humain comme un être frontière, c'est-à-dire qui a une double appartenance, une appartenance terrestre et une appartenance céleste, qui est à la fois animal, qui est fait justement, qui est de matière, comme un animal, qui est fait de glaise, mais qui en même temps est à l'image de Dieu, qui est corps, âme, esprit, et qui donc a aussi justement une dimension céleste. Et le rôle précisément de l'être humain, ça va être de devenir un médiateur, c'est-à-dire un pont entre la terre et le ciel. Un pont entre la terre et le ciel, c'est-à-dire, ça c'est la dimension véritablement pontificale de l'être humain, donc en fait de participer à la transfiguration de la création, quand je parlais de la finalité de la création, qui est sa transfiguration, et il ne peut participer à cette transfiguration de la création, évidemment, qu'à travers sa propre transfiguration. Et ça, c'est la dimension de transformation intérieure sur laquelle nous reviendrons demain. Merci de votre attention.